Bon réveil si vous nous rejoignez, nous sommes le mardi 20 septembre 2016, voici le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Kinshasa s'embrase, manifestations et répression dans la capitale de la République démocratique du Congo. 17 morts selon les autorités, plus de 50 selon l'opposition. Elle réclame la convocation d'une élection présidentielle alors que le président Joseph Kabila semble s'accrocher au pouvoir.
La trêve en Syrie vole en éclats. Hier, un raid aérien a touché un convoi humanitaire destiné à la province d'Alep. Au moins 12 morts. Washington accuse Moscou.
À la une également, un suspect arrêté après les attentats aux États-Unis qui ont fait 29 blessés ce week-end. Il s'agit d'un Américain originaire d'Afghanistan. 90 millions d'euros pour la culture et l'emploi, c'est l'enveloppe du Fonds pour l'emploi pérenne dans le spectacle. Un plan présenté hier et promis par le Premier ministre Manuel Valls. C'était en avril dernier dans le dossier des intermittents. À 7h13, le billet économique, Guillaume.
Marie Viennot s'interroge, nos entreprises sont-elles trop lourdement taxées? La question du jour, à quoi servent les think tanks avec l'Institut Montaigne qui a publié un rapport remarqué sur l'islam ce week-end? Et le sujet du jour, quelle politique pour les patrons, en compagnie de Pierre Gattaz, président du MEDEF, rejoint à 8h20 par Guillaume Duval d'Alter Echo.
La manifestation a viré au bain de sang hier à Kinshasa. Plusieurs milliers de manifestants dans la capitale de la République démocratique du Congo. Beaucoup de jeunes, ils réclament le départ du président Joseph Kabila à la tête de la RDC depuis 2001. Après deux mandats, la constitution ne lui permet pas de se représenter et ce mardi est la date limite pour fixer des élections. Une présidentielle est censée avoir lieu cette année, sauf que Joseph Kabila ne donne aucun signe de vouloir quitter le pouvoir. C'est donc avec ce slogan, Kabila dégage, dans toutes les bouches, sur des pancartes ou encore en lettres rouges sur la statue du héros de l'indépendance, Patrice Lumumba, que les manifestants ont défilé hier. Riposte des forces de l'ordre à balles réelles. 17 morts selon les autorités, plus de 50 selon l'opposition. Également des incendies criminels, des pillages. Récit d'une journée de violence avec Nabila Hamel.
Pouvoir et opposition s'accusent mutuellement de cette nouvelle flambée de violence. La manifestation devait commencer hier à 13h, mais selon plusieurs témoignages, des heurts ont opposé auparavant des jeunes armés de pierre à des policiers à Limette, quartier où se trouve le siège de l'UDPS, principal parti de l'opposition. D'autres sources font état d'attaques de permanence du parti au pouvoir avec lynchage de policiers en faction. Le ministre de l'Intérieur a parlé d'un mouvement insurrectionnel et a interdit la manifestation. Les autorités accusent le parti fondé par l'opposant historique Étienne Tshisekedi d'être à l'origine de ces désordres. Cette nouvelle flambée de violence a eu lieu la veille d'une date butoir. Ce mardi est, selon la constitution de la RDC, le dernier jour pour convoquer le corps électoral en vue d'une présidentielle censée avoir lieu avant la fin de l'année. Constitutionnellement, Joseph Kabila ne peut briguer un autre mandat. Et si les slogans de jeunes quinois hier étaient « Kabila dégage », c'est parce qu'une partie de la population et de l'opposition le soupçonne fortement de vouloir s'accrocher au pouvoir, soupçon conforté samedi dernier lorsque la commission électorale a demandé officiellement à la Cour constitutionnelle de reporter le scrutin. Raison invoquée, les listes ne seront pas prêtes avant juillet 2017. Une échéance pour la présidentielle, la fin de l'année 2018 avait alors été proposée à des personnalités de l'opposition, mais une transition de 2 ans est à leurs yeux inacceptable.
Et alors qu'il couvrait la manifestation hier à Kinshasa, en photographe de l'AFP et une journaliste de la radio française RFI ont été interpellés à la mi-journée par la police militaire, malmenés et séquestrés pendant 5 heures. Une partie de leur matériel a été confisquée. Au Quai d'Orsay, Jean-Marc Ayrault a jugé très dangereuse et extrêmement préoccupante la situation en RDC et de prévenir. Si les élections sont reportées sans cesse, cela veut dire que Joseph Kabila veut rester au pouvoir. Cette situation n'est pas acceptable. En Syrie, quelques heures après que l'armée a déclaré la fin de la trêve des combats, des avions militaires syriens ou russes ont bombardé hier soir des camions d'aide humanitaire destinés à la province d'Alep. Un convoi organisé par l'ONU et le Croissant-Rouge syrien, 12 morts. Des raids aériens ont également tué au moins 32 civils, toujours dans la province d'Alep, la grande ville du nord du pays où s'affrontent forces gouvernementales et rebelles. La trêve en Syrie, prononcée le 12 septembre, vole donc en éclats, si tant est qu'elle ait encore existé au Marwa.
Cette trêve n'aura finalement été respectée que les trois premiers jours durant lesquels aucun décès n'a été signalé. Une première depuis des mois à la suite. C'est une série d'accrochages, de tirs sporadiques, de violations de part et d'autre et de négociations stériles entre belligérants sur la livraison de l'aide humanitaire. Mais le cessez-le-feu a véritablement commencé à vaciller après le bombardement samedi par la coalition internationale de positions de l'armée syrienne à Deir ez-Zor dans l'est de la Syrie qui ont causé la mort d'au moins 80 soldats du régime de Bachar el-Assad. Washington a plaidé l'erreur, la Russie demande une enquête et Damas a répliqué dimanche avec une série de raids aériens sur les quartiers rebelles d'Alep, les premiers depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Quant à l'aide humanitaire destinée aux 250 000 habitants des quartiers assiégés, les convois n'ont jamais pu prendre la route. Quelques minutes à peine après l'annonce de la fin de la trêve, un déluge de feu s'est abattu toujours sur Alep, les frappes se sont multiplié toute la soirée et les rues désertées.
Omar Waman, correspondant de France Culture à Beyrouth. Et aujourd'hui, François Hollande veut lancer un nouvel appel à une trêve en Syrie pour permettre l'accès humanitaire. Le président français à la tribune de la 71e Assemblée Générale des Nations Unies. Hier, les 193 pays de l'ONU ont promis de protéger les droits fondamentaux de tous les réfugiés et migrants, d'accroître le soutien aux pays d'accueil débordés et de promouvoir l'éducation des enfants réfugiés. Mais aucun engagement ferme n'a été pris lors de ce premier sommet onusien consacré aux migrations, sommet organisé à New York. Restons aux États-Unis avec l'arrestation hier du principal suspect des attentats du New Jersey et de New York qui a fait 29 blessés ce week-end. Il s'agit d'un Américain d'origine afghane, Ahmad Rahami, 28 ans. Il ne figurait sur aucun fichier d'individus suspectés de radicalisation, mais il a été reconnu par un témoin qui avait vu les portraits largement diffusés par le FBI. Ahmad Rahami, arrêté dans le New Jersey après une fusillade avec les forces de l'ordre, correspondant de Frédéric Carbone.
Dans sa ville d'Elizabeth, dans le New Jersey, Ahmad Rahami, c'est le restaurateur toujours prêt à dépanner un client dans le besoin et parfois en conflit avec le voisinage pour des questions d'ouverture tardive. Ce modeste restaurant, c'est le repère et le socle d'une famille venue d'Afghanistan. Ahmad Rahami est arrivé enfant avec ses parents et il habite dans l'appartement au-dessus. L'apparence donc d'une intégration banale dans une ville populaire de la grande banlieue de New York. Mais ces dernières années, certains proches décrivent un changement, une agressivité, des manifestations d'une forme de grand écart entre sa double culture. Il est revenu d'un voyage en Afghanistan totalement différent, raconte ainsi un ami interrogé par le New York Times, alors qu'une ancienne compagne affirme qu'il s'en prenait régulièrement au mode de vie à l'américaine. Cette jeune femme ne l'a pas vu depuis 2 ans, elle dit simplement qu'elle n'aurait jamais imaginé qu'il en arrive à une telle volonté de tuer. C'est bien cela le mystère auquel sont confrontés les enquêteurs. Les images des caméras de vidéosurveillance, les empreintes, tout indique qu'Ahmad Rahami a bien posé les bombes, mais rien ne vient expliquer le passage à l'acte d'un homme connu seulement pour des délits mineurs.
Et après les attentats, Donald Trump a prononcé hier un virulent discours en Floride liant menaces islamistes et immigration. Le candidat républicain à la Maison-Blanche a également étrié l'angélisme supposé de son adversaire démocrate Hillary Clinton ainsi que du président Barack Obama. En Grèce, le camp de réfugiés et de migrants de Moria sur l'île de Lesbos est en proie aux flammes. Les tentes et les conteneurs qui servaient d'hébergement ont été ravagés par un gigantesque incendie hier. Aucune victime, mais les migrants, entre 3000 et 4000 personnes ont dû fuir dans les champs alentours pour échapper au feu.
7h08 sur France Culture, la suite du journal Catherine Dutu. Le ministre de la Justice pourrait annoncer ce matin des mesures pour répondre aux tensions dans les prisons, des prisons françaises surpeuplées.
Jean-Jacques Urvoas a choisi Fresnes pour présenter donc ce matin son rapport sur l'encellulement individuel, un droit inscrit dans la loi et vieux de plus de 140 ans, mais ce droit n'a jamais été respecté. Quels arbitrages peut-on attendre à quelques mois de la présidentielle? Élément de réponse dans le journal de 7h30 avec Florence Turme. Un adolescent de 16 ans a été arrêté hier dans la Marne, soupçonné d'être à l'origine de la fausse alerte qui a provoqué samedi une vaste opération antiterroriste au cœur de Paris. Un second adolescent est toujours recherché. Une réforme de l'indemnisation des victimes du terrorisme, c'est ce qu'a annoncé François Hollande hier lors d'une cérémonie en leur hommage. Devant des centaines de personnes réunies aux Invalides, le président a estimé que ce fonds, créé il y a 30 ans, ne pouvait plus rester en l'état, souhaitant à l'avenir une indemnisation juste et transparente, sans apporter d'autres précisions. C'était son premier meeting depuis sa déclaration de candidature à la présidentielle le 21 août dernier. Arnaud Montebourg était hier soir à Gonesse, dans le Val d'Oise. Sa stratégie, privilégier les villes moyennes, les banlieues et les zones rurales, s'intéresser à la vie quotidienne des Français, plaide le candidat. Arnaud Montebourg, qui a consacré une large partie de son discours à l'économie, à l'Europe et plus précisément à la lutte contre les règles de Bruxelles.
Il est de notre responsabilité, la France a un leadership sur l'Union européenne, de dire maintenant ça suffit. Ça suffit d'appliquer des règles stupides et nous en avons assez que la croissance passe au dernier plan. Nous en avons assez que la question de l'austérité soit dissimulée. Nous appliquons des règles, nous devons faire des choix. Et s'il y a des choix à faire, eh bien nous devrons nous confronter à ce qui est devenu le système bruxellois et le système européen. Donc nous allons devoir demander un nouveau traité de Rome. Nous allons devoir faire des propositions et organiser la réforme de l'euro. Dire que maintenant, ça suffit. Je vais, dans ce chemin alternatif, vous dire que nous n'éviterons pas de casser de la vaisselle à Bruxelles. Et je vais vous demander de me suivre. Je le ferai par nécessité de venir au secours de nos intérêts et de notre peuple.
Le socialiste Arnaud Montebourg, propos recueillis par Ludovic Piétenu. 90 millions d'euros pour la culture et l'emploi. Le ministère de la Culture et celui du Travail ont détaillé hier les grandes lignes du fonds pour l'emploi pérenne dans le spectacle. Une enveloppe conséquente et une série de mesures très attendues par les professionnels du secteur, les employeurs et les intermittents. L'objectif, pérenniser les emplois dans un secteur très consommateur de contrats de courte durée. Si la plupart se réjouissent de cette avancée, des critiques émergent également sur le fonctionnement du dispositif, Sarah Petitbon.
Une prime à l'emploi de 28 000 euros versée aux entreprises pour l'embauche d'un intermittent du spectacle en CDI, des aides pour les structures qui recrutent leur premier contrat à durée indéterminée ou pour celles qui embaucheraient des CDD longue durée. Voici quelques-unes des mesures présentées hier par la ministre de la Culture et destinées à pérenniser les emplois longs dans un secteur très précarisé. Le dispositif globalement est bien accueilli par les professionnels du spectacle. Comme Jacques Aubert, il est le président de la Fédération des employeurs du spectacle vivant, de la musique, de l'audiovisuel et du cinéma.
C'est la première fois qu'on a 90 millions d'euros par an mis sur la table pour pérenniser l'emploi dans les secteurs du spectacle vivant et enregistré. C'est une très bonne chose.
Un coup de pouce inédit, mais de nombreuses questions demeurent, comme le souligne Angéline Barthes de la CGT Spectacle.
Les structures qui sont éligibles vont automatiquement bénéficier de ces subventions. Et en fait, nous, on aurait souhaité qu'il y ait des aides beaucoup plus sélectives dans lesquelles on puisse aussi, nous, interagir et sur lesquelles on aurait aimé donner aussi notre opinion.
D'autres professionnels doutent que certaines mesures soient réellement adaptées aux problématiques du secteur. La transformation des CDD d'usage en CDI notamment pose problème, comme l'explique Lorraine Villermeau. Elle est la présidente du syndicat professionnel des producteurs, festivals, ensembles et diffuseurs indépendants de musique.
Pour la plupart des artistes ou techniciens, très peu d'entre eux auront la possibilité vraiment de se pérenniser dans des petites structures dont l'activité est par nature irrégulière. On monte une tournée, on monte un projet, les effectifs changent, que ce soit une pièce de théâtre ou un ensemble musical qui monte une œuvre, on n'a jamais le même plateau artistique.
L'ensemble de ces mesures doit être mis en place avant la fin de l'année. Elle devrait concerner près de 10 000 personnes.
Le fonds pour l'emploi pérenne dans le spectacle, Zoé Sfez y revient dans le journal de la culture à 8h45. Le temps de ce mardi, de la grisaille et des averses ce matin sur une grande partie du pays. Au fil de la journée, les éclaircies sont à attendre. Sur la façade atlantique, un franc soleil près de la Méditerranée, mais des nuages persistants partout ailleurs. Les températures maximales comprises entre 17 et 24 degrés en général, jusqu'à 28 près de la Grande Bleue, Guillaume Erner.
Merci beaucoup Catherine Dutu.